France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Léon de Grelle, nazi un jour, nazi toujours. Ce type est un ultra de la collaboration en Belgique durant l'occupation du pays par les Allemands. Né en 1906, mort en 1994, ses 88 années d'existence se divisent en deux chapitres. L'ascension fasciste, qui le conduit à être décoré par Hitler, et l'exil en Espagne, après-guerre, au cours duquel il s'applique à entretenir la flamme du nazisme. Le cas de Grelle met la Belgique face à son histoire. D'abord parce qu'il interroge la collaboration, bien sûr. Ensuite, parce que s'il a pu vivre impuni pendant 50 ans, c'est en grande partie parce que la Belgique ne voulait pas le juger. Mais la vie de Grelle éclaire autre chose. Parce qu'il est un haut gradé de la Waffen-SS et parce qu'il vit en liberté jusqu'à presque 90 ans, de Grelle devient le centre d'attraction de l'international fasciste. À travers lui, se joue un combat, réhabiliter le fascisme. Notre invité aujourd'hui, Frédéric Salen, écrivain, auteur d'une biographie de Léon de Grelle, parue en février 2025 chez Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation David Le Prince.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter. Ce soir, 20h45 sur France 3. Bonne soirée sur France 3.
25 septembre 1992. France 3 programme une émission rangée dans ses tiroirs depuis 15 ans. Elle devait être diffusée en effet en 78, mais sa diffusion avait été suspendue. Il s'agit d'un documentaire au sujet sensible, une vraie affaire sensible, à tel point que France 3 commence son émission par un avertissement.
FR3 va maintenant vous présenter dans la série Les Dossiers Noirs un personnage hors du commun dont l'apparition à l'écran provoquera sans doute de vives réactions d'irritation. Pour les combattants de la dernière guerre, pour tous ceux qui ont souffert dans leur âme et dans leur chair, cette sorte d'autoportrait pourra même paraître insoutenable. Si pourtant nous avons programmé cette émission, c'est d'abord parce que Léon de Grelle est l'unique survivant des Volksführer désignés par Hitler pour diriger l'Europe nazie. Seule une évasion spectaculaire lui épargna le sort réservé à ses pairs. À ce titre, il s'agit d'un document historique exceptionnel. Cette émission, cependant, constitue aussi une démonstration. Elle montre comment un homme, à qui on peut faire le crédit de la sincérité, est amené par le contenu même de son engagement à collaborer activement à l'une des plus monstrueuses entreprises de destruction et de mort que l'histoire ait connue.
Léon de Grelle, autoportrait d'un fasciste. C'est le titre de cette émission de France 3 qu'on appelait FR3 à l'époque. Ce programme retrace la vie de ce nazi belge, son engagement avant-guerre, puis les batailles sur le front de l'Est avec la Waffen-SS, avant l'exil. L'auteur du documentaire est l'un de ses compatriotes, Jean-Michel Charlier. Il est connu des amateurs de bande dessinée, c'est l'auteur de Lou Berry et de Bug Danny. S'il s'intéresse à de Grelle, c'est parce que lui, Charlier, a fait le choix de la résistance. Peut-être aussi parce qu'il voit en de Grelle un homme qui tient un rôle, comme les personnages de ses bandes dessinées. Alors Charlier est allé voir l'affreux personnage chez lui, en Espagne. De Grelle ne dit jamais non à une caméra. Au contraire, il lui a ouvert la porte de son appartement et Charlier est entré dans ce qui ressemble à un petit musée du Troisième Reich. Sur les murs du salon, des photos du propriétaire en uniforme SS et une photo d'Hitler dédicacée. Dans sa bibliothèque, des dizaines de livres à la gloire du Führer, des ouvrages négationnistes, certains dont il est l'auteur. Dans sa penderie, des uniformes de la Waffen-SS et de la Phalange espagnole. Voilà pour la visite de ce petit musée des horreurs. De Grelle s'assied dans un fauteuil. Il passe un ruban sous le col de sa chemise à la manière d'un nœud papillon, un ruban rouge, blanc et noir, qui soutient une croix métallique frappée d'une croix gammée, comme ça c'est clair. C'est la Ritterkreuz, la croix de chevalier. De Grelle l'a reçue des mains d'Hitler. Bien, la caméra est en place, le Belge positionne sa médaille sur sa chemise pour qu'on la voit bien. Ça tourne, il peut se livrer à son exercice préféré, raconter sa vie.
Et je vois encore le brave Hitler me prendre dans ses bras.
et me passer au coup le collier de la Ritter Creuse. Et puis me dire, en me serrant les deux mains, vous m'avez donné tant de soucis. Évidemment, parlant d'Hitler, je te ferai dire, pour plaire à peu près tout le monde, c'est un maboule, c'est un drogué. Allons, pas de blague, moi je dis ce que j'ai vu. Hitler, c'était le génie foudroyant, c'était le plus grand homme de notre siècle. Quand il a vu mes bottes, il dit, écoutez, Léon, et combien vous avez de pointures? 42. Ah ben moi, dis, j'ai 43, puis il s'en va à son armoire, il prend une des paires de ses bottes. C'est comme ça que ça se passait. C'était l'homme qui me tartinait des sandwichs avant que je m'en aille. C'était l'homme qui, au moment où j'allais partir, m'apportait une bouteille de champagne, lui qui ne supportait pas la boisson.
Voilà, vous venez de faire connaissance avec De Grelle et son style. C'est un homme qui sait parler, qui a soulevé des foules et qui manie une certaine forme d'humour, le sien, mais surtout l'exagération. Hitler ne lui a évidemment ni donné ses bottes, ni préparé de sandwich. Voilà la difficulté du documentaire de Charlier. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ce grand-père nazi grotesque se cache un idéologue du fascisme. Et lui donner la parole, c'est risquer de propager ses idées. France 3 finit tout de même par diffuser l'émission en 92, 15 ans après sa réalisation, alors que la France passe un tournant dans la mémoire de la collaboration. Après Klaus Barbie, on s'apprête à juger Maurice Papon, le milicien Paul Touvier et l'ancien chef de la police René Bousquet. Mais en Belgique, c'est différent. De Grelle est encore vivant et l'émission ne passe que dans des projections privées. De toute façon, ça fait 50 ans que la Belgique repousse ce fantôme. Il la replongerait dans des souvenirs trop douloureux.
Ici Radio Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle.
La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seuls dans le nord contre l'ennemi. C'est cette armée belge qui vient brusquement de capituler sans condition en rase campagne sur l'ordre de son roi, sans prévenir ses camarades de combat français et anglais, ouvrant la route de Dunkerque aux divisions allemandes.
Le 28 mai 1940, les Français apprennent par la voix du dernier président du Conseil de la Troisième République que leurs alliés belges capitulent devant l'armée allemande. La bataille n'aura duré que 18 jours depuis l'invasion le 10 mai au petit matin. 10 mai 1940, 5h12 pour être précis. Et c'est l'instant où le destin de Léon De Grelle bifurque. 2 heures plus tard, on frappe à la porte de sa maison en périphérie de Bruxelles. Il ouvre. Devant lui, 7 policiers, menés par un inspecteur à qui on a donné une consigne claire. Tu l'épingles sans histoire, hein, et au moindre geste, n'hésite pas, flanque-lui une bonne volée avant de l'amener. Ce qui n'est pas nécessaire. De Grelle se laisse faire. Mais qui est-il en ce 10 mai 1940, hein, pour qu'on l'arrête alors que les Allemands arrivent ? Eh bien, c'est un homme politique de 33 ans, fasciste. Ancien journaliste, tribun efficace, dont le parti Rex a fait une entrée fracassante au Parlement belge 4 ans plus tôt. Il est catholique, antisémite et anticommuniste. À la tête d'une milice, il coche toutes les cases de l'idéologie criminelle fasciste. Il admire Hitler et Mussolini, même si les Belges savent qu'il n'admire rien plus que lui-même. Car c'est un grand narcissique, à l'ambition démesurée. Le gouvernement l'a donc inscrit sur la liste des individus à arrêter immédiatement en cas d'attaque allemande. Il est incarcéré à Bruxelles, puis transféré en France, alors que les Allemands progressent. Pendant 2 mois, il est bousculé d'une cellule à une autre, jusque dans les Pyrénées, pour le maintenir loin des Allemands. Le 17 juin, c'est le gouvernement français qui arrête le combat. Le 2 août 1940... De Grelle est de retour à Bruxelles, dans un pays sous administration militaire allemande. Des années plus tard, l'une de ses filles commentera. Il voulait devenir un grand personnage. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il n'allait pas partir à Londres. Alors, il restait ça. Eh bien, il a joué cette carte-là. Et voilà. Il était impulsif, mais il aurait dû attendre. De Grelle à Londres. Difficile de croire qu'il se soit posé la question. Une semaine plus tard, il est à Paris avec Laval et l'ambassadeur allemand Otto Abetz, à qui il met de grandes cartes sous les yeux. Il leur montre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la Lorraine. Car son projet, c'est de refonder la vieille province des Pays-Bas bourguignons. Et surtout, de la diriger. Mais les Allemands regardent avec perplexité cet individu instable. Ils ne lui confient ni royaume, ni ministère, ni même un journal. Pour De Grelle, le pouvoir devra se conquérir ailleurs. Et c'est l'attaque allemande contre l'Union soviétique le 22 juin 1941 qui lui ouvre une porte. Le 1er août, les actualités françaises rendent compte de la mission des légions européennes de volontaires pour le front de l'Est.
Le front européen s'amplifie. Dans tous les pays, les volontaires s'engagent afin d'épargner à l'Europe le cauchemar bolchevique. Voici en Belgique un bureau de recrutement. Le régiment des Flandres est constitué. En France, la Légion des volontaires se prépare. Pendant ce temps, à Hendaye, la division bleue espagnole franchit la frontière.
Août 1941, Bruxelles. 850 volontaires sont réunis en rang dans le hall pavé de marbre du Palais des Beaux-Arts. Certains sont mineurs et se sont inscrits sans l'accord de leurs parents. Il y a une majorité de partisans d'Hitler, bien sûr, mais pas seulement. On y trouve aussi, par exemple, quelques Russes blancs. De Grelle entre aux côtés de délégations de la Wehrmacht et de volontaires italiens et espagnols. Il porte un uniforme noir et prend place sur un pupitre devant une grande photo d'Hitler. Voilà des mois qu'il déploie son énergie pour que les Allemands lui donnent un poste. Alors, il entraîne sa milice dans des saccages de magasins juifs et se met au service de l'occupant. Il écrit même à Hitler. « Appelez-moi où vous voulez, au poste le plus modeste ou le plus ingrat des SS, n'importe où. » En vain. Alors, à bout d'idées, ce 8 août 1941, il est en partance pour le front de l'Est. « Un jour, nous reviendrons, » dit-il aux volontaires et aux caméras. « Ayant tout donné, nous pourrons alors tout prendre. » Puis il emmène la Légion vers la gare du Nord parmi une foule de bras tendus. Les volontaires embarquent pour un voyage que feront après eux tant de déportés. De Grelle est à une fenêtre du train. Une femme lui offre un bouquet. Il est tout sourire. Les actualités françaises sont sur place.
La lutte contre le bolchevisme fera l'Europe unie. De toutes les parties de l'Europe, les volontaires partent vers le front de l'Est. 800 volontaires wallons quittent Bruxelles. Parmi eux, simple volontaire, Léon De Grelle, chef du Rexisme.
Au début, la Légion au service du Troisième Reich peine à recruter. De Grelle lui-même ne compte pas immédiatement en faire partie. Mais c'est pressé par ses compères qu'il consent à partir lui aussi. Mais du point de vue allemand, les volontaires étrangers ne sont pas là pour faire nombre, mais pour servir de relais au nazisme. La division de De Grelle est d'abord versée dans la Wehrmacht et c'est vers un camp d'entraînement en Pologne qu'elle se dirige. Mais le premier arrêt se fait juste à l'extérieur de Bruxelles, où on embarque les valises. Dans les siennes, De Grelle a un stock de photos de lui, bien sûr, qu'il offrira dédicacé une fois à destination. Dans la Légion, il est appelé Modeste Ier roi de Bourgogne. Nous n'allons pas faire le récit de son implication sur le front de l'Est. Retenons simplement qu'il rejoint l'Ukraine 2 mois plus tard, que les effectifs sont sévèrement perturbés par l'hiver et par les Russes et que Grenelle reçoit la croix de guerre. Qu'il obtient que sa légion intègre la Waffen-SS en 1943, qu'en novembre de la même année, les volontaires wallons comptent 2000 hommes et sont renvoyés au front alors que les soviétiques ont déjà gagné Stalingrad, et que le 20 février 1944, c'est la consécration, oui, malgré la défaite, De Grelle est décoré par Hitler de la croix de chevalier. Les caméras allemandes captent ce moment.
Le Führer reçoit des officiers qui se sont distingués par leur bravoure lors de la récente bataille de Tcherkassy. Parmi eux, le commandant de la Légion Wallonne de SS, Léon De Grelle, chef du Rexisme, à qui le chancelier Hitler remet la croix de chevalier.
« De Graël entre dans l'élite de la collaboration. Son visage illuminé de bonheur est photographié et diffusé dans la presse de propagande de toute l'Europe. Il y a ensuite une deuxième rencontre. En réalité, Hitler le récompense parce qu'il est, je cite, « le seul Belge utilisable ». Le débarquement approche, l'Allemagne est en mauvaise posture. Mais De Graël, lui, est au zénith de l'autosatisfaction. Le 1er avril 1944, il défile dans Charleroi et Bruxelles à la tête de la Légion. Un cortège dont les images questionnent les Belges. Car il y a foule pour applaudir la figure de proue des collabos. La radio française, au service de Vichy, est sur place pour enregistrer sa voix.
Dans une époque où tant de gens ne comprennent pas, vous avez compris. À une époque où il y a tant d'égoïsme, vous vous êtes sonné. À une époque où tant de gens sont dans les ombres, vous êtes dans la lumière. La lumière, mes chers camarades, et de ce fureur qui a monté à l'Europe et au Germain. La voix du national-socialisme, la lumière, et de rendre notre peuple heureux. Camarades, entrez dans vos foyers et revenez plus fort pour la victoire et pour la révolution national-socialiste.
C'était le sommet de la gloire de mon père, se souvient un brin pagnolesque, l'une de ses filles. Malheureusement, poursuit-elle tristement, 5 mois plus tard, les chars anglo-américains allaient défiler par le même trajet. Le 2 septembre, en effet, les Allemands évacuent Bruxelles. Dans la dernière année de la guerre, De Graël a le temps de retourner au front et gravir encore les échelons de la Waffen-SS. Et dans le chaos qui suit le débarquement, il n'y a plus personne chez les Allemands pour brider sa mégalomanie. Seul dans les décombres du national-socialisme, De Graël s'autoproclame chef du peuple wallon et appelle à la mobilisation générale. Un roi dans un champ de ruines. Il est de passage à Sigmaringen en novembre 1944, là où les rats se sont réfugiés, le gratin du collaborationnisme français. Et Louis-Ferdinand Céline écrit à son propos « Quel est ce roi des cons qui ne fera même pas un beau pendu avec sa gueule de Jean Foutre ?» Un mois plus tard, De Graël est condamné par la Belgique à la peine de mort pour trahison. Mais il n'est pas là. Il a fui, toujours plus loin vers le nord. Il est à Copenhague, puis à Oslo, quand Berlin est prise et qu'Hitler se suicide. Le 7 mai 1945, il embarque à bord de l'avion du ministre de l'Armement, Albert Speer, dont nous allons bientôt raconter l'histoire dans Affaires sensibles. En cette dernière nuit de la guerre, l'avion de De Graël survole l'Angleterre et Paris, qui se prépare à célébrer la paix. Mais le réservoir se vide alors que l'avion est au-dessus des Landes. Il y a juste assez de vent pour le porter au-delà des Pyrénées. Le 8 mai, à 7h du matin, l'avion du chef des collabos belges s'écrase dans la baie de Saint-Sébastien dans le Pays Basque. Aux premières lueurs du jour de la capitulation du Troisième Reich, De Graël entre dans un nouveau pays fasciste et il entre vivant. Oui, c'est un malheureux miracle. Il lui reste donc à sortir de l'avion et à se reconstruire une vie dans un monde en paix.
Ay, Carmela. Pero nada pueden bombas. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Solo es nuestro deseo. Solo es nuestro deseo. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela. Acabar con el fascismo, ay Carmela, ay Carmela.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Léon de Grelle.
Nous sommes entrés de plein pied dans l'épopée de notre siècle.
Affaires Sensibles.
Je suis plus que jamais hitlérien. Parce qu'Hitler était un génie immense. La dernière croix gammée qu'on ait vue sur l'Europe, ce fut la nôtre.
Fabrice Drouel.
Juillet 1958, Andalousie. Un homme marche à l'ombre des petites maisons blanches du village de Constantina, à 80 km au nord de Séville. C'est un vieux bourg paisible, bordé par des collines et resserré autour du grand clocher de son église. Cet homme a un peu plus de 40 ans. Il est grand, arbore une fine moustache distinguée. Il s'appelle Albert Mello et c'est un ancien résistant. Il s'est enrôlé en Angleterre, il a été parachuté, emprisonné, torturé, et il s'est évadé. Et depuis la fin de la guerre, il est juge. Mais à Constantina, personne ne sait qui il est. Il se dirige vers une colline qui surplombe le village. Là se dresse un domaine cerné par une enceinte à l'intérieur duquel une haute tour à créneaux d'architecture maure veille sur une grappe de petites maisons. Cet endroit s'appelle la Carlina. Albert Mello le longe et continue de grimper sur la colline. De là-haut, il a une vue d'ensemble. Alors il voit le patio, les jardins et les 14 fontaines. C'est une Alhambra miniature et c'est là que vit Léon de Grelle. Enfin, il s'appelle maintenant Léon José de Ramirez Rena et il a une mère adoptive qui tient un commerce dans le centre du village. Albert Mello le sait. Depuis son atterrissage chaotique à Saint-Sébastien, le 8 mai 45, de Grelle se cache sous l'aile protectrice du gouvernement de Franco. Ses appuis sont des ministres, des écrivains, des notables avec qui il a loué contact, pour certains dès la guerre d'Espagne. Mais si Albert Mello est à Constantina, c'est pour mettre fin à cette impunité, justement. Car de Grelle est sous le coup d'un mandat d'arrêt, il a été condamné à mort pour trahison, il est accusé d'avoir fait exécuter des otages en Belgique à la fin de la guerre. Mello vient donc enlever de Grelle. Et il parle dans le documentaire de Jean-Michel Charlier, 20 ans plus tard.
Avant de mettre en action notre projet, j'ai été trouver les autorités belges de l'ambassade de Belgique à Madrid pour leur dire tout simplement ce que nous allions faire. Ce que le ministre Spaak a dit de l'attitude de l'Espagne était faux. Le gouvernement de Franco n'était pas du tout opposé, était même tout disposé à rendre de Grelle. J'ai été assez étonné qu'on m'explique que le gouvernement belge n'était pas désireux de voir revenir Léon de Grelle.
Mello est-il au courant qu'il n'est pas le premier à vouloir enlever le sinistre de Grelle ? Dès 1946, en effet, un officier belge en a l'occasion. Il a l'accord du Premier ministre, mais il se heurte au refus du même ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak. Spaak, c'est pourtant lui qui refusait d'installer une ambassade en Espagne tant que Franco n'avait pas livré de Grelle. Car effectivement, les Espagnols refusent l'extradition. Quand Franco apprend que de Grelle est sur son territoire, il veut d'abord l'expulser. Mais le nazi belge, qui l'est toujours, oui, belge et nazi, a des soutiens importants, dont le directeur général de la sécurité, et il obtient protection. De façon rocambolesque d'ailleurs. On organise sa fuite de l'hôpital dans lequel il est soigné après le crash de l'avion. On le cache, et un notaire lui fabrique une identité. De Grelle est un sujet de tension diplomatique, mais en réalité, chacun joue une carte bien hypocrite. Les Espagnols prétendent qu'il n'est pas là alors qu'ils le protègent et les Belges disent vouloir le juger alors qu'ils s'opposent à son retour. De Grelle vit donc en liberté. D'autres tentatives d'enlèvement suivront, certaines orchestrées par le Mossad, d'autres par des journalistes en quête de scoop. Mais tout échoue. Les services espagnols tiennent toujours De Grelle au courant. De son côté, le fugitif tranquille tente de monter des affaires. Sans succès d'ailleurs. Son argent, il le tient de son notaire, fasciste notoire, et du ministre du Travail, un phalangiste de premier plan. Mais pour gagner sa vie, parce qu'il faut bien la gagner, De Grelle n'a en réalité qu'une option, vendre des livres. Nous sommes en 1949, 9 ans avant la tentative d'enlèvement de Léon De Grelle par Albert Mello. Nous sommes à Torremolinos, à côté de Malaga. De Grelle accueille un visiteur qui vient de Suisse, un certain François Genoux. C'est à la fois un banquier et un éditeur. C'est aussi un féroce antisémite qui ne cache pas sa sympathie pour les nazis. François Genoux finance une maison d'édition baptisée à l'enseigne du cheval ailé, fondée en France en 1944, et qui publie les mémoires des nazis et des collabos. Laval, Goebbels et Vabron, et bientôt De Grelle. C'est la raison du déplacement de François Genoux. D'autant que cette année 49 est celle qui suit la naissance d'Israël et que cet homme fait tout ce qui est en son pouvoir pour nuire à ce nouvel État, qu'il déteste. De Grelle accepte immédiatement et se met au travail pour poser la première pierre d'un monument qu'il construit à sa propre gloire, une avalanche de livres qui ne prend fin qu'à sa mort. L'objectif de ces livres, faire de la campagne de Russie une légende dans laquelle il tient le premier rôle et faire l'éloge d'Hitler. Mais en mettant le dirigeant nazi sur un piédestal, c'est lui-même qu'il glorifie. Le socle de sa légende, c'est qu'il se considère comme le fils spirituel du Führer. C'est en tout cas ce qu'il raconte à Jean-Michel Charlier en 1978.
On peut voir Hitler qui me prend la main dans ses deux mains et qui me dit « J'ai tant souffert en pensant à vous » et puis qui me dit après « Si j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme vous ». Et les fluides s'étaient réunis, l'exemple avait été donné. J'étais pour lui, à ce moment-là, l'Européen non-allemand qui représentait une chose immense.
Auf den Führer! Auf den Führer!
Ce que De Grelle raconte est faux, il se fait mousser. Il le concédera à ses amis d'ailleurs, qui savent bien qu'il est mythomane. Non, c'est plutôt qu'il a eu l'impression qu'Hitler l'avait reçu comme un fils. De toute façon. Si ce dernier lui avait dit une telle chose, il n'aura pas pu le comprendre. De Grelle ne parle pas allemand. Si la légende est plus belle que la réalité, retient la légende. Eh bien, De Grelle l'a retenue. Tant pis donc si ce qu'il racontait est faux. Ce récit qu'il entretient tout seul attire ce qui subsiste de la société fasciste dans les années d'après-guerre. Et les premiers viennent de France. En 59, un journaliste du nom de François Brignot lui rend visite. Collaborationniste, milicien, c'est l'un des futurs fondateurs du journal Rivarol et du Front National. Il vient écrire une série d'articles sur De Grelle. Il est accompagné par un autre journaliste d'extrême droite, Henri Charbonneau, collaborateur de Valeurs Actuelles. Il y a aussi l'épouse de ce dernier, Jeanne Brevet, nièce de Joseph Darmand, ancien chef de la milice française. De Grelle n'est plus seul à tisser sa légende. D'autres en Europe lui emboîtent le pas et profitent de sa liberté pour réhabiliter le fascisme.
En France, le fait d'invoquer Léon De Grelle, je pense qu'il faudrait mieux invoquer le diable, quasiment.
Dans mon panthéon, il est tout en haut. C'est le premier que j'ai admiré avec Mussolini.
Car il s'est engagé dès sa plus tendre jeunesse pour son pays. C'est l'exemple même du sacrifice.
Pour protéger sa culture et sa race.
Et sa race, et sa culture, nos racines.
Les années passent et De Grelle reçoit journaliste, éditeur et jeunesse nationaliste. Puis il déménage avec sa nouvelle compagne, Jeanne Brevet, qui a quitté son mari pour vivre avec De Grelle. Il y a quelques remous avec la procédure d'entrée de l'Espagne dans la communauté européenne qui le font remonter à la surface, ou la mort de Franco, qui le voit perdre un allié précieux. Mais pas de quoi faire changer d'avis la Belgique. Le cas De Grelle est une affaire classée. Même s'il voulait revenir, la Belgique le refoulerait à la frontière. Si l'on suit sa pensée, dans ses livres ou dans les nombreuses interviews qu'il donne, on suit pas à pas l'évolution de l'extrême droite. Cela passe, dans les années 70, par une nouvelle horreur consistant à nier l'existence de la Shoah. À la même époque, apparaissent des dizaines de films pornographiques nazis, mais oui, Le style de Grêle est similaire. Grossier, vulgaire, guignolesque. Il exhibe son nazisme sans honte et sans que personne ou presque ne tente de le faire taire. De Grêle se montre maintenant publiquement à des réunions fascistes espagnoles. Tranquille. Seule une rescapée de la Shoah, Violetta Friedman, lui intente un procès en 85 pour négation de la Shoah. Procès qu'elle gagne après une procédure longue de 6 ans tout de même. Nous sommes en 1991, De Grêle est diminué, mais il n'a pas perdu de son éloquence. Des jeunes nationalistes viennent le voir depuis l'Italie, l'Irlande et même les États-Unis. En France, c'est du côté du GUD, syndicat d'extrême droite, qu'on lui rend visite. Axel Lousteau se fait dédicacer un livre. C'est un très grand honneur, entend-on dire ce proche de Marine Le Pen qu'on voit serrer la main de De Grêle devant une caméra. Dans le documentaire « Léon De Grêle ou la fureur de vivre » de Corentin Falck et Philippe Dutilleul, un ancien directeur du GUD, témoigne anonymement. Il est possible qu'il s'agisse de Frédéric Chatillon, ami proche de Marine Le Pen, futur conseiller et prestataire de services du Rassemblement National, dont on sait qu'il rend visite à De Grêle au moins deux fois.
Il fallait quand même le faire, parce qu'on payait notre poche, notre voyage, c'était quand même quelque chose, quand on était étudiant, c'était pas facile de se payer le transport jusqu'à Madrid ou jusqu'à Malaga. Et donc on arrivait à, malgré l'interdiction, parce que je crois qu'à l'époque il n'avait pas le droit de se réunir, on arrivait à organiser des réunions dans des restaurants. Au-delà donc du cercle politique, du sérail politique qui pouvait le rencontrer régulièrement, il avait toutes sortes de personnes improbables chez lui, des consuls, des banquiers, des artistes. Il n'y a pas eu un dîner chez lui, donc ensuite quand je suis allé le voir régulièrement, où je ne tombais pas sur des gens d'horizons complètement différents et qui n'allaient pas voir De Grêle parce qu'ils étaient convaincus politiquement, parce qu'ils avaient besoin de rencontrer Léon De Grêle, parce qu'il fallait qu'ils sachent qui était Léon De Grêle. En fait, il était là pour galvaniser en fait les volontés. C'était quelqu'un qui faisait de la prospective, qui essayait d'analyser sans arrêt l'actualité et qui nous donnait en fait l'envie de combattre, de militer pour nos idées. On revenait de là, on était galvanisés, on avait vraiment envie de continuer dans notre engagement, nos idées. Enfin, c'était vraiment des moments très très forts.
Dans le même cercle, la journaliste d'extrême droite Caroline Parmentier participe à un ouvrage en 93 en l'honneur de De Grêle. Elle est aujourd'hui députée du Rassemblement National. Un an plus tôt, pour la dernière fois, De Grêle répond à une interview pour la télé. C'est TF1 qui va le voir. L'émission Droit de savoir reçoit Jean-Marie Le Pen et on fouille ses liens avec les anciens nazis. C'est un vieux Léon De Grêle qui ouvre la porte de son appartement décoré des reliques de son passé fasciste. Mais un vieux monsieur qui dit avec énergie « Jean-Marie Le Pen, oh, nous sommes de vieux copains, depuis toujours, on se parle très souvent au téléphone. » Et il va venir me voir ici, peut-être le mois prochain. Ah, qu'est-ce que Le Pen pense d'Hitler ? Demande le journaliste. Bon, je crois qu'il l'admire beaucoup, répond De Grêle. En plateau, Jean-Marie Le Pen dément cette proximité. Mais pas les coups de téléphone. Je connais Léon De Grêle comme je connais un certain nombre d'hommes politiques mondiaux, dit-il. C'est un vieux monsieur qui s'attribue une influence qu'il n'a pas. On ne lui donnera pas tort sur ce point. De Grêle est au centre d'un mythe, en vérité, un mythe qu'il a forgé lui-même. Mais l'extrême droite s'en est servie. Et chez lui, c'est l'un des derniers endroits où le nazisme s'exprime en liberté. De Grêle meurt en 94 à l'âge de 86 ans. Des messes sont données dans les églises traditionnalistes en Belgique, en Espagne et en France. À Paris, c'est à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, évidemment. Il est incinéré. La Belgique interdit l'entrée des cendres sur son territoire et l'une de ses filles écrit « Le lieu où devaient reposer ses cendres pour toujours, il l'avait choisi. Eh bien, j'ai accompli sa volonté et peut-être en parlerai-je plus tard. » Là encore, c'est peut-être une légende, c'est peut-être vrai. Les cendres de De Grêle auraient été dispersées dans les Alpes bavaroises autour du Berghof, la résidence secondaire d'Hitler. De Grêle, nazi jusqu'au bout et au-delà. Le quotidien belge Le Soir titre alors « Le dernier fasciste de la première heure est mort ». Aujourd'hui, Léon De Grêle, depuis la ville de Liège, en Belgique bien sûr, notre invité Frédéric Sanen. Bonjour.
Bonjour.
Écrivain, auteur d'une biographie très réussie d'ailleurs, de Léon de Grelle, parue en février 2025 chez Perrin. Dans l'émission Affaires sensibles, nous nous sommes beaucoup plongés, par le passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, dans l'histoire délicate de la mémoire française, de la collaboration. Nous avons raconté de grands procès d'anciens nazis et collabos, Klaus Barbie, Maurice Papon, Paul Touvier, l'affaire René Bousquet. En Belgique, l'histoire est différente. Les Belges ont-ils pris le temps de regarder la collaboration en face et de la juger?
Oui, c'est vrai que pendant la guerre, en fait, je crois qu'il faut considérer que la Belgique a connu une situation sensiblement différente à celle de la France, qui était sous le régime de Vichy. En Belgique, le roi Léopold III, qui est resté au palais de Laeken à Bruxelles, se considère comme prisonnier. Le gouvernement légal s'exile et finit par gagner l'Angleterre. La Belgique est alors, comme vous l'avez dit dans le reportage, placée sous administration militaire allemande, et donc les anciennes structures administratives de l'État vont faire une espèce de mariage de raison avec l'autorité allemande, et il s'installe dans le pays une politique du moindre mal, comme on l'appelle, qui va permettre de relancer l'économie, de défendre des intérêts nationaux. Donc, ça veut dire que beaucoup de Belges vont être peu ou prou compromis dans la collaboration, soit pour avoir cédé à la pression de l'occupant, soit pour avoir adhéré, pour les plus extrémistes, à des mouvement pro-nazi, antisémite. Et donc, dès le début du mois d'octobre 44, soit un mois plus ou moins après la libération de la Belgique et de Bruxelles, les procès pour collaboration vont commencer à s'ouvrir. Et donc, il faut mesurer que sur 400 000 dossiers ouverts, 60 000 personnes vont être condamnées en Belgique à la prison, 100 000 personnes vont subir des exclusions administratives ou bien devenir des inciviques. Et c'est quand même assez énorme en regard de la population belge, qui est beaucoup plus réduite que celle de la France, puisqu'il y a 7 millions plus ou moins d'habitants en Belgique à l'époque. Comme en France, il va y avoir beaucoup de faits d'épuration sauvage, des femmes tondues, par exemple. Mais si on se penche sur le plan des condamnations légales, il va y avoir 242 collabos qui vont être condamnés à mort et fusillés. Dans le lot, il y aura peu d'intellectuels, peu de journalistes, ce qui est une différence avec la France. Et le dernier condamné à mort va être exécuté en 50. Puis la page va être relativement tournée. On va dire que la Belgique va essayer de passer à autre chose après ces faits.
Ça, c'est le fameux concept de réconciliation nationale cache-sexe d'un certain manque de courage, quand même, faut l'avouer. Bon, puis ça évolue, mais enfin, pour De Grelle, ça a été quand même un problème. La Belgique ne voulait pas le récupérer, ne voulait pas qu'il soit extradé. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Parce que pour le reste, vous avez raison de faire le portrait de ce qu'a été la réaction des Belges, l'épuration, comme en France, effectivement. Il n'y a pas d'impunité, mais pour De Grelle, c'est compliqué.
C'est ça. Alors oui, en effet, De Grelle va se faire oublier pendant quelques années, vous l'avez expliqué dans le reportage très bien, donc il arrive en Espagne, il bénéficie de protection, et il ne va pouvoir réapparaître qu'au début des années 50, au moment où il accorde des interviews, il commence à dire, même dans ses interviews, il commence à clamer qu'il réclame un procès équitable et public en Belgique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été condamné à mort
en Belgique. Oui, on l'a dit, bien sûr.
Dans la guerre, le 27 décembre 44. Et donc là, au moment où lui-même dit rejugez-moi et laissez-moi l'opportunité de parler à nouveau en public dans un grand procès à l'américaine, diffusé même à la radio ou à la télévision, la Belgique ne compte pas lui donner une deuxième chance. Il a été condamné à mort, point final. Mais ce que De Grelle sait sans doute, c'est qu'après 1950, les condamnations à mort en Belgique ne sont plus appliquées et elles sont automatiquement commuées en condamnation à perpétuité. Et donc, vous avez en effet très très bien saisi dans le reportage l'imbroglio juridique dans lequel va se retrouver le cas De Grelle et qui va expliquer les atermoiements, les impasses, les malentendus, les tu veux ou tu veux pas autour de sa livraison par l'Espagne aux autorités belges. Mais il faut juste rappeler que la Belgique a failli craquer en deux ou voler en éclats au terme de l'affaire de la question royale qui se passe au même moment, donc au moment où le roi Léopold III veut revenir en Belgique en juin-juillet 50. Et je crois que fondamentalement, tout le personnel politique qui était alors en place, en premier lieu Paul-Henri Spaak, que vous avez cité dans le reportage, avait bien connu De Grelle comme agitateur politique dans les années 30, connaissait ses capacités de communication hors normes et répugnait à l'idée de le voir revenir au pays pour représenter un nouveau danger, peut-être, non pas en termes de mobilisation politique, parce qu'il est clair que la Belgique faisait partie des pays voilà, où le nazisme avait été éradiqué, mais même en prison, je veux dire, De Grelle aurait représenté quelqu'un d'extrêmement encombrant et d'ingérable, et oui. Ensemble, comme il l'avait été depuis des années.
Ça veut dire qu'on avait quand même un peu peur de son style et de sa capacité éventuelle à entraîner les foules.
Tout à fait, oui. Oui, je pense, parce que c'est vrai que le style de Grelle repose en effet sur cette espèce de charisme, de magnétisme. Si on veut parler du style de Grelle, c'est vraiment un personnage très très déconcertant. Je crois que les extraits que vous avez diffusés en témoignent.
Il nous en reste un d'ailleurs qu'on a diffusé tout à l'heure. Il nous en reste un qui vaut le détour.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Frédéric Sanen, on parlait du style du discours de Grelle. On va écouter une archive. Il faut rappeler que Léon de Grelle n'est pas qu'un nostalgique du Troisième Reich, c'est aussi, dans sa logique, l'un des promoteurs du négationnisme. Alors, on va l'écouter. C'est un document de 1973. Attention, c'est assez pénible à entendre. Évidemment, tout est parfaitement mensonger.
Je sais bien que quand on emploie ce mot de juif, on fait tourner dans ses mains une boule de dynamite. Alors je l'ai dans les mains, la boule de dynamite, et je vais la faire tourner devant vous. J'espère qu'elle ne vous sautera pas à la figure ni à la mienne. Je suis convaincu, et c'est visible, ça éclate aux yeux dans l'univers entier, que ceux qui ont gagné la guerre, ce sont les juifs. Ils ont enfin pu être les grands martyrs, ils s'adorent ça. C'est pas pour dire du mal des juifs, le juif est exhibitionniste.
Excusez-moi, mais il y a 6 millions de juifs qui sont morts dans votre guerre.
Oui, eh bien, ça c'est pas vrai. Et c'est une de ces légendes criminelles qu'on continue à répandre à travers le monde. Il est mort quelques centaines de milliers de juifs.
Je vous l'avais dit, c'est pénible à entendre, mais ça fait partie de l'histoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous qui connaissez, vous qui connaissez si bien De Grelle, par procuration, évidemment, par l'écriture. D'ailleurs, ça n'a pas dû être simple de se plonger dans l'histoire d'un personnage aussi repoussant, quoi.
Non, ça absolument, c'est compliqué, mais bon, dans une certaine mesure, en fait, moi j'ai préféré envisager le phénomène qu'il représente plutôt que l'homme dans ses aspects personnels et privés. Ce qui est important, c'est pas de remuer le misérable petit tas de secrets, comme disait Malraux, mais plutôt d'éclairer la trajectoire du personnage, d'où il vient, où il arrive, et il arrive à cette posture négationniste tout à fait. Si on veut parler du négationnisme de Grelle, évidemment, moi je trouve assez regrettable que De Grelle ait jusqu'à présent été aussi absent des histoires du révisionnisme et du négationnisme, parce qu'il y occupe une place symbolique, d'une part, et active, très forte. Vous avez signalé le fait qu'il avait publié beaucoup de livres sur la question. Et je crois que des recherches plus précises de spécialistes vont mettre à jour à un moment des éléments sur le rôle réel qu'il a joué de passeur entre les différentes nébuleuses négationnistes françaises, européennes et internationales. Alors, deux choses. Premièrement, en 69, De Grelle va réclamer, dans les 15 premières pages de son essai « Hitler pour Milan », publié à la table ronde dirigée à l'époque par Roland Laudenbach, que la science s'empare de la question de l'extermination des Juifs. Ce sera un des ressorts principaux de la démarche de l'universitaire Robert Fourisson 10 ans plus tard, avec sa sortie dans Le Monde en janvier 79. Donc De Grelle est un peu le précurseur du fourissonisme. Et puis, deuxièmement, en mai 79, donc quelques mois après la parution de la tribune de Fourisson, De Grelle publie la lettre au pape Jean-Paul II, où pour la première fois, il va ironiser de façon absolument ignoble sur la Shoah, les chambres à gaz, les extractions dentaires, enfin c'est écœurant à lire. Et donc à l'examen de ces exemples-là et de mains autres textes ou propos en interview, comme vous en avez cité là, on se rend compte que De Grelle est l'embrayeur historique entre Robert Fourisson et un personnage comme Dieudonné. J'entends par là qu'en tant qu'acteur de la Seconde Guerre mondiale, mondiale, enrôlé lui-même sous la bannière nazie, comme vous l'avez montré, il a enraciné vraiment le discours négationniste dans l'idéologie nazie, comme si c'était son prolongement naturel, en fait.
Merci, votre réponse est très éclairante. Donc, il se réfugie en Espagne, chez Franco, un fasciste. Oui. C'est pas le même fascisme qu'Hitler, ni de Mussolini, c'est un fascisme paternaliste. Alors, brutal, évidemment, comme toutes ces idéologies. Oui. Bon, ça vous paraît logique qu'il aille en Espagne.
Oui, parce qu'en fait, les liens avec l'Espagne étaient tissés bien avant la guerre, au moment où De Grelle nouait des contacts avec tous les régimes autoritaires émergents en Europe. Et donc, De Grelle a été, à travers sa presse et puis son activité politique, il a été un des premiers à même se rendre en Espagne en visite auprès des autorités du franquisme à partir de 1939, après donc la guerre civile. Et donc, il a noué des contacts à partir de cette époque. Et puis aussi, les Wallons ont combattu à la fin de la guerre aux côtés de la division Azul, en tout cas les membres de la division Azul qui étaient intégrés parmi les volontaires sur le front de l'Est. Mmh. Et donc, il y a une espèce aussi là de solidarité naturelle qui s'est tissée entre Wallons et Espagnols. Les liens entre la Belgique et l'Espagne, vous l'avez dit dans le reportage, vont être après assez compliqués avec tout ça. Mais De Grelle va en effet jouir en Espagne d'une relative liberté, même si parfois c'est une liberté un peu inquiète. Hein. Elle est marquée par des tentatives de rapt, jamais de tentative d'assassinat, mais bon. Et en fait, les 50 ans qu'il a vécu en Espagne sont des moments, sauf peut-être dans les 10 premières années ou à certains moments de crispation, des moments où il a l'occasion de se retraire, de lire, d'écrire beaucoup. Et donc de vivre une vie finalement assez paisible jusqu'à la fin de ses jours. Il y a des moments plus difficiles, hein, ça c'est bien clair, des moments où il se rappelle au bon ou au mauvais souvenir du gouvernement belge, mais voilà, ça reste quand même, il a quand même pu vivre encore en effet 50 ans en Espagne.
Et oui. Vous parlez dans votre livre de romantisme nazi, que voulez-vous dire par cette formule qui apparaît tout de même comme un oxymore?
Mais en fait, c'est vrai. Bon, c'est difficile peut-être à accepter.
Non, pas du tout.
Mais
non.
De Grelle, en fait, non. Mais De Grelle est loin d'être un modèle de type Ralph Ron qui est juste prêt à casser du métèque. Hein. Mmh. C'est plutôt, qu'on le croit ou non, un homme de culture qui, en son jeune âge, à un moment, s'est essayé à la poésie avant de devenir une tête politique et un pamphlétaire redoutable. Il a lu Léon Blois, il a lu Charles Maurras, il a lu Léon Daudet. Il connaît ses classiques, il est nourri, pétri d'histoire, il est bercé par l'idéal de la résurrection, soit des provinces unies ou bien de la grande Bourgogne des ducs. Donc j'irais pas jusqu'à dire que c'était un rêveur casqué ou un poète armé, comme le disait Maurizio Serra de certains écrivains qui avaient participé à la guerre. Mais en fait, il y a en lui une part d'idéalisme qui s'est complètement dévoyée et complètement corrompue au moment où il s'inféode au fanatisme hitlérien, et où le Führer devient pour lui une figure messianique qu'il annonce, que De Grelle annonce même être là pour 1000 ans. Donc,
Hitler aussi disait ça, 1000 ans.
Je pense que... Oui, c'est ça, tout à fait. Mais De Grelle va porter, au-delà de la mort du Führer, cette espèce de message messianique. En fait, dans les années 30, on constate qu'il s'adresse aux foules un peu comme un évangéliste de lui-même, et puis il va devenir l'évangéliste du Führer.
Alors, De Grelle meurt en mars 94. Comment la nouvelle est-elle accueillie en Belgique?
Je ne sais pas vraiment très bien comment mesurer l'impact émotionnel de la nouvelle, mais en tout cas, parce que évidemment, 50 ans ont passé après la fin de la Deuxième Guerre, et donc il y a eu une espèce de refoulement un petit peu de cette mémoire de part et d'autre du pays, hein, en Flandre et en Wallonie. Mais je crois qu'en tout cas, au niveau des autorités politiques, elle a dû être accueillie avec autant de soulagement que de fermeté, parce que directement au lendemain de la nouvelle, un arrêté royal signé donc d'Albert Ier, qui était sur le trône depuis un an à peine, va interdire que la dépouille ou les cendres de Grelle soient rapatriées sur le sol belge. Donc, même mort, il gênait encore.
Et alors, vraiment le mot de la fin, en quatrième de couverture de votre livre, on peut lire la phrase suivante. Derrière le sourire de celui que les foules surnommaient le Beau Léon. Voilà. Oui. On dira l'accordéon désaccordé du Beau Léon.
Oui.
Pour ce qui concerne. Merci infiniment pour tous ces éclairages, monsieur. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Frédéric Sanen, donc le livre Léon de Grelle, biographie, paru chez Perrin. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Léon de Grelle, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Philippe Duclos.